Radio 1. Premier sur l'info. L'info locale avec EDT, Engie et le Doc de l'Habitat.
7h30, c'est le journal local présenté par Nathan de Carrière. Tout de suite, les titres.
Bonjour Marco, bonjour à tous. Le tribunal a rendu son verdict dans l'affaire Téléo Tefana. La radio a été condamnée à 100 millions de francs d'amende pour recel de prise illégale d'intérêt. Une décision colonialiste pour Oscar Temaru qu'on écoutera dans ce journal. Le docteur Cordonnier demande sa réintégration à l'hôpital de Tahoné. Il avait été suspendu de ses fonctions il y a 2 ans pour importation et consommation de drogue. Les suites du rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la santé, l'État et le pays sont taclés pour leurs projets jugés insuffisants et décevants sur le plan matériel et financier. Enfin, une enquête va être lancée pour étudier les comportements des familles en Polynésie, une façon de mieux cibler les besoins. Plus de précisions en fin de journal.
Et on commence ce journal avec Téléo Tefana condamné à 100 millions d'amende.
Oui, le tribunal correctionnel a rendu son verdict hier matin et est allé bien au-delà des réquisitions. 6 mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende ont été requis contre Oscar Temaru, le leader indépendantiste. L'ancien directeur de Téléo Tefana Vito Mahama Atua et Utapu écope de son côté de 3 mois de prison avec sursis et 1 million de francs pacifiques d'amende. L'amende s'élève donc à 100 millions pour la radio, soit 5 fois plus que ce qui avait été requis par le procureur en juin dernier. La radio paye son partisanisme et le service des intérêts du parti Bleu Ciel d'Oscar Temaru. Il dénonce une décision colonialiste.
C'est une décision colonialiste. Nous avons affaire à une justice colonialiste. Ça fait des années que je dis qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle.
Ils auraient mieux fait de m'envoyer un Outanien. Voilà, ça, comme ça, ça aurait été clair et net. Parce que c'est ça l'esprit derrière tout ça. Ce monsieur-là, il faut le descendre. Comme ils ont fait à l'époque, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Tout le monde savait que ce monsieur-là était innocent. Non, il fallait l'enfermer, à tout prix l'enfermer, parce que c'était l'empêcheur de tourner en rang. Avec lui, il n'y aurait pas eu des essais nucléaires. La population se serait manifestée. Alors, on a trouvé des tas de prétextes pour l'envoyer en prison en France. Voilà. Et pour reconnaître 60 ans après que ce monsieur est innocent.
De son côté, l'ancien directeur Vito Mahama Atuaia Hupatu affirme que la radio ne possède pas une telle somme. Cette décision serait politique pour faire taire le mouvement indépendantiste.
La radio Tefana n'a pas 100 millions. Hein. Il n'y avait pas besoin d'un procès, il fallait venir dynamiter la radio. C'est plus simple. Hein. C'est plus simple quand on veut faire taire un peuple, tant qu'ils l'ont fait à leur manière, avec subtilité. Et encore, je ne sais pas de maintenant qu'ils ont voulu fermer cette radio. Et là, ils ont la politique.
Mais ça fait partie de la lutte, tout ça. Le combat continue.
Et cette affaire suscite une grande interrogation chez les avocats des accusés.
En effet, maître Gilles Jourdain, avocat d'Oscar Temaru, affirme qu'il n'existe aucun élément matériel qui prouve que la radio Tefana ait fait de la propagande.
Nous avons des éléments de droit qui sont sérieux, qui ont été certes rejetés par le tribunal, mais nous devons maintenant nous interroger sur la motivation de ces rejets, sur la motivation des éléments objectifs pour fonder l'infraction de prise illégale d'intérêt, dont je rappelle que c'est une infraction qui est extrêmement large et que ça laisse un large pouvoir à la juridiction de pouvoir entrer en voie de condamnation, mais également en voie de relax. Et là, je constate que les éléments objectifs qui ont été retenus par la juridiction n'ont pas pris en compte les éléments que la défense a présentés.
Interview réalisée au micro de Vaïté Ourali Pambrin. L'heure est désormais à la réflexion pour les 3 prévenus qui devraient faire appel de cette décision.
Le docteur Cordonnier demande à réintégrer ses fonctions au CHPF.
Il avait été condamné en appel à 8 mois de prison avec sursis et 1,38 million de francs d'amende pour importation et consommation d'ice. Le néphrologue à l'hôpital de Tahoné s'était fait envoyer par la poste un colis de 3 grammes de drogue. La direction de l'hôpital avait, suite à cette condamnation, ouvert une procédure pour le révoquer de ses fonctions. Le rapporteur public estime de son côté que la gravité des faits justifie sa sanction qui porte atteinte à la dignité de la fonction publique. Le docteur Cordonnier bénéficie toutefois de soutien interne de ses collègues. Ils affirment qu'aucun élément ne prouve que la drogue influait sur son travail. Selon son avocat, l'accusé aurait traversé une période difficile sur le plan personnel. Il n'aurait pas consommé de drogue pendant plus de 3 mois. Le délibéré sera connu le 24 septembre.
Les suites du rapport de la Chambre territoriale des comptes qui tacle les projets de santé de l'État et du pays.
Et le bilan est décevant avec des dépenses de santé qui s'élèvent à 80 milliards de francs en 2015. Le CHPF concentre à lui seul près d'un tiers des dépenses quand la direction de la santé n'en consomme que 3%. Cet écart démontre le besoin de réviser la grille tarifaire pour constituer une véritable communauté hospitalière. La Cour territoriale des comptes tacle l'ensemble du premier projet lancé sur 3 ans entre 2014 et 2017. Les investissements sont jugés trop modestes. Sur les 8 milliards de francs prévus, seulement 2 ont été dépensés. Concernant le second projet prévu entre 2015 et 2020, la progression est lente. Les investissements programmés ne représentent qu'un tiers de l'enveloppe de 3,5 milliards de francs attribués. Cette situation est dans son ensemble paradoxale étant donné les besoins du secteur de la santé qui a récemment subi une grève. Le bilan de ces deux projets prouve que le pays ne maîtrise pas ses cycles d'investissement ni les besoins des établissements sur le territoire.
Une enquête bientôt lancée lancée pour étudier les mouvements des familles en Polynésie.
Cette enquête a été baptisée Feti Ifenua et sera lancée dès le 1er octobre par l'ISPF, assistée par l'INED. Elle va servir à étudier les familles, leurs mouvements, leur territoire, mais aussi les différentes relations entre les membres. Les enquêteurs vont se concentrer sur les personnes âgées de 40 à 59 ans. Ils représentent la transition entre l'ancienne et la jeune génération. Nicolas Puydôme, directeur de l'ISPF, nous explique les objectifs de cette enquête.
Alors pour les politiques publiques, c'est justement de mesurer les phénomènes. Est-ce qu'il y a des solidarités entre les familles ou pas? C'est quoi les événements forts qui impactent? Est-ce que c'est l'entrée au collège, au lycée, ou est-ce que c'est bien plutôt au niveau de la primaire que les parents décident de bouger? Est-ce que c'est la recherche d'un emploi? Comment ils gèrent le fait qu'ils doivent vivre avec leurs parents ou grands-parents? Donc du coup, tout ça, ça a des répercussions sur comment on aménage le territoire polynésien. Est-ce qu'il faut construire des logements? Quel type de logement? Les écoles, où on les situe? Est-ce qu'il faut des établissements de santé? Et à quel endroit? On a des idées, il y a des choses qui sont véhiculées, et après la question c'est de quantifier.
La première phase de collecte se déroulera d'octobre à décembre avant une deuxième phase prévue de février à mars 2020. L'ensemble du territoire va être étudié avec pas moins de 15 îles visitées dont certaines vont bénéficier de la visite d'un voilier, notamment dans les Tuamotu Gambier. Magda Tomasini, directrice de l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, justifie l'intervention de l'organisme pour étudier au mieux la complexité du territoire polynésien.
L'INED est spécialisée sur l'étude des sciences des populations et notamment sur les liens familiaux. Donc il a une maîtrise de toutes ces questions et a conduit aussi de nombreuses enquêtes sur des thématiques proches. Et là, il va adapter son savoir-faire en matière d'enquête sur la famille aux spécificités de la Polynésie. Je pense que c'est un besoin si les politiques publiques souhaitent aménager leur territoire de façon harmonieuse. Ça répond à un besoin, oui.
Cette enquête va permettre de mieux connaître les besoins des familles, notamment en équipement public. L'idée est d'éviter une trop grande concentration, notamment sur Tahiti. Et les résultats seront connus au premier semestre 2021.
Un Grenelle des violences conjugales prévues en Outre-mer avant le 25 novembre.
Oui, la date précise n'a pas été communiquée, mais c'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme Marlène Schiappa hier. Elle avait été interpellée à ce sujet par une députée de la Guadeloupe. En 2017, une étude du CESE montrait que les violences en Outre-mer étaient plus élevées qu'en métropole. Le taux de femmes agressées par leur conjoint monte à 17% en Outre-mer contre 2,3% en métropole. En Polynésie, 7% des résidentes étaient victimes d'agressions sexuelles par leur conjoint au cours des 12 derniers mois.
Et on termine ce journal avec l'ouverture de la conférence du groupe parlementaire des îles du Pacifique.
Ce sont 60 personnalités issues de 16 chambres parlementaires qui se sont engagées symboliquement à agir en faveur de l'océan Pacifique. Ce groupe souhaite devenir à terme une institution politique et institutionnelle reconnue et influente. Une déclaration commune au-delà de toute considération politique doit être signée aujourd'hui pour sauver l'océan Pacifique et mettre en place une pêche durable. Le président Édouard Fritch s'est exprimé devant l'Assemblée pour rappeler la richesse des ressources du Pacifique. Ces ressources sont convoitées par les plus grands pays du monde.